Retrouvez dans votre émission À Table, la recette du chef, à midi et demi sur Tendance Ouest. La recette du chef, avec Pierre, sur Tendance Ouest. Tendance
Ouest. Cette semaine, on installe À Table à Montivilliers, direction Le JB, chez Justine Lucas, 2 bis cours Sainte-Croix. Justine, dites-nous, depuis combien de temps êtes-vous chef du JB ?
Donc depuis 2017 qu'on a repris la brasserie.
Et alors racontez-nous un petit peu l'univers de ce restaurant, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre carte comme type de cuisine ?
Chez nous, c'est une cuisine traditionnelle qu'on propose avec tout est fait maison et c'est composé de menus à l'ardoise et le menu change toutes les semaines.
Alors vous êtes sur un service midi et soir ?
On est uniquement sur un service du midi et on est ouvert du lundi au vendredi.
Juste comme ça, pour nous donner un ordre d'idée, la formule plat-dessert du midi, on est sur quel budget ?
On est sur un budget à 15,90.
Et vous, alors personnellement, est-ce que vous avez des influences un peu particulières sur la cuisine ? Est-ce que il y a une culture, il y a un pays qui vous inspire culinairement ?
Alors, dans un premier temps, c'est la France. On est vraiment sur de la cuisine traditionnelle française. C'est vraiment ce qu'on met en avant et on revisite en fait les classiques français.
À table, la recette du chef.
Ce midi, direction la brasserie Le JB à Montivilliers. Justine Lucas, quelle première recette avez-vous choisi de nous faire découvrir ce midi ?
Donc j'ai choisi de vous faire découvrir la recette du pain de poisson. Donc je vais vous donner les quantités que nous on utilise au restaurant. Bien sûr, elles peuvent être divisées par 2, par 3 ou par 4 ou multipliées. Il va vous falloir 1,5 litre de lait, 2,7 kg de poisson cuit, 18 œufs, 18 tranches de pain de mie et 542 g de gruyère râpée. Donc dans un premier temps, il faut cuire le poisson à l'ombre avec un bouillon, les épices de votre choix. Il faut prévoir environ 20% du poids global pour obtenir le bon poids final parce que le poisson réduit quand même un petit peu à la cuisson. Ensuite, il faut battre les œufs, puis ajouter le lait et le gruyère râpé. Découper grossièrement le pain de mie et l'ajouter. Égoutter le poisson pour pouvoir l'incorporer au mélange. Ajouter encore une fois les herbes de votre choix, salées et poivrées. Mélangez tout à la main pour que ça soit plus homogène et le cuire dans un moule de votre choix avec soit nous on utilise au restaurant de la bombe à graisse pour être sûr que ça ne colle pas ou un moule en silicone et vous cuisez le pain de poisson à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Encore une fois, tout dépend de la taille que vous avez choisie du pain de poisson. Vérifiez la cuisson à partir de peut-être 25 minutes. Et puis ensuite, vous pouvez faire une sauce pour l'accompagner. Nous, la semaine dernière, c'était une sauce à l'aubergine. Sinon, une sauce à base de cocktail de fruits de mer, ça marche aussi très bien.
Alors là, sur voilà. Les quantités que vous nous avez présentées, on est sur un pain de poisson pour combien de personnes ?
On est sur un pain de poisson pour 48 personnes, 48 entrées de restaurant, quoi, on va dire.
Donc on laissera chacun faire le calcul de diviser ou de remultiplier en fonction du nombre d'invités. Question toute bête, quel poisson on peut mettre dans ce pain de poisson ?
Alors, on peut mettre tous les poissons. C'est ça l'avantage. Aussi bien du poisson blanc que du saumon. On l'a aussi testé avec du filet de haddock pour avoir un petit peu plus de goût. Donc vraiment, libre à vous pour le choix du poisson.
Et on cuit tous les poissons en même temps dans la même casserole ou est-ce qu'il faut faire des cuissons séparées à chaque fois ?
Non, c'est inutile vu que là, il est vraiment cuit à l'eau et on cherche vraiment un poisson cuit au bouillon, quoi.
Et donc le pain de mie, on mélange tout le pain de mie avec le poisson, c'est ça ? Et c'est ça qui va donner ensuite la forme et la consistance à votre pain de poisson ?
Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je dis de le découper grossièrement, inutile de s'appliquer. Mais par contre, le plus facile, c'est de mettre quand même des petits morceaux pour que ça s'imbibe bien avec le lait.
Eh ben très bien, merci à vous Justine Lucas. On le rappelle, le JB, c'est 2 bis, cours Sainte-Croix à Montivilliers. À table, toujours cours Sainte-Croix à Montivilliers. Cette semaine, Justine Lucas, chef du restaurant Le JB, est notre invitée. Justine, qu'est-ce qu'on mange ce midi ?
Alors ce midi, en entrée, je vous propose un magret de canard en gravlax. Car on a souvent l'habitude de croiser cette recette avec du saumon. Et nous, ici, on l'a essayé avec du magret. Donc, pour cette recette, il vous faut donc un gros magret de canard. Il vous faudra aussi 75 g de gros sel, 45 g de sucre, 2 cuillères à soupe d'Armagnac, plus 2 cuillères à soupe de vodka, une branche de thym. Donc, il suffit de mélanger tous les ingrédients que je viens de vous indiquer dans une plaque à rôtir ou un récipient assez creux. Et ensuite, on peut enrober le magret de canard de la préparation. Il suffit de le laisser au frigo pendant 12 heures, puis le lendemain, on le rince à l'eau froide abondamment pour retirer le sel, le sucre, tout ce qu'il y a dessus. Et ensuite, on n'a plus qu'à le découper finement en tranchettes. Et moi, je vous le propose au restaurant, donc en salade, avec une vinaigrette à la betterave. Sinon, vinaigrette classique, vinaigrette de noix, ça marche très bien.
En fait, les différents ingrédients sur la méthode et la recette du Gravlax ne servent qu'à faire une sorte de marinade, c'est ça ?
Exactement, voilà, c'est une marinade qui cuira le magret de canard.
Et question toute bête, sur le magret de canard, est-ce qu'on enlève le gras du dessus ?
Alors du coup, non, bonne intervention, non, on n'enlève pas le gras du canard. On ne le tranche pas non plus, comme on pourrait le faire pour un magret de canard saisi à la poêle. Voilà, on laisse vraiment tel quel. Et on privilégie même le côté chair dans le bas, enfin en dessous, et la peau au-dessus.
Ah.
Pour faciliter, on va dire, la cuisson par la marinade.
Et ben voilà, et puis en plus, de toute façon, le gras, c'est ça qui va donner le goût à la viande, donc il faut le garder.
Complètement.
On se régale en tout cas, merci sur Tendance Ouest, merci Justine. Les recettes de l'émission À Table, elles sont disponibles, vous le savez, chaque vendredi en podcast, tendanceouest.com et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.
À Table, la recette du chef.
Justine Lucas, chef du restaurant Le JB à Montivilliers et l'invité de l'émission À Table sur Tendance Ouest cette semaine. Chef, ça y est, on a tous mis notre tablier, les mains sont lavées, on est prêt pour une nouvelle recette, on vous écoute.
Je vous propose donc un risotto de chou-fleur aux champignons. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 600 g environ de chou-fleur, 300 g de champignons de Paris, 100 g de parmesan râpé, environ 50 centilitres de crème liquide à 20%. Donc dans un premier temps, il faut hacher le chou-fleur au couteau jusqu'à obtenir des morceaux de la taille d'un grain de riz. Ensuite, émincer les champignons, puis préparer un bouillon de légumes, le mettre à chauffer. Dans une grande poêle, vous faites fondre une noisette de beurre, vous y faites revenir de l'échalote jusqu'à temps qu'elle soit translucide. Ajoutez le chou-fleur et bien remuer pour qu'il s'enrobe de beurre. Ensuite, déglacez au vin blanc. Une fois le vin blanc évaporé, ajoutez une louche de bouillon dans la semoule de chou-fleur. Bien mélanger et laissez le bouillon s'évaporer. Recommencez l'opération jusqu'à ce que le chou-fleur soit cuit. Ensuite, le débarrasser. Pour servir chaud, préparez donc un sautoir. Vous y ajoutez de la crème liquide, le chou-fleur en semoule, le parmesan râpé et les champignons. Vous mélangez le tout pour que le parmesan lie votre risotto. Il suffit de faire réchauffer 2-3 minutes et ensuite dresser dans une assiette plutôt creuse.
Ah donc en fait, on est sur un risotto sans riz.
C'est ça.
Tout bêtement.
On est sur un risotto sans riz. Voilà, c'est le chou-fleur qui fait office de grain de riz. Et c'est assez surprenant car on n'y voit que du feu, j'ai envie de dire.
Et vous servez ça en plat unique, sans viande, sans rien à côté.
Voilà, c'est ça. Alors nous, au restaurant, on propose beaucoup de plats, on va dire, végétariens. En fait, des variantes parce qu'on a une carte très réduite. Et il y a donc ça, je l'ai fait il y a 2-3 semaines au restaurant. Et on y a ajouté des gambas maquées. Donc on le proposait avec ou sans gambas.
Ah oui, effectivement, ben voilà, comme ça convient et à ceux qui mangent de la viande ou du moins de la chair animale et ceux qui n'en mangent pas. Merci à vous Justine Lucas, les recettes du restaurant Le JB à Montivilliers et de tous les restaurants invités de À Table sont disponibles en podcast tendanceouest.com. C'est à vous de jouer maintenant. La semaine se poursuit, on continue de feuilleter le livre de recettes de Justine Lucas, chef du restaurant Le JB à Montivilliers. Justine, ce midi, on s'arrête sur quelle page ?
Alors, on s'arrête sur une page de riz au lait, mais à la pistache. Voilà ce que je vous propose. Il vous faudra 1 litre de lait, 100 g de sucre, 150 g de riz rond à dessert et 50 g de pâte de pistache. Donc dans un premier temps, il faut mettre 1 litre de lait à chauffer à feu moyen, mettre le riz rond en casserole, mouiller à hauteur et atteindre l'ébullition. Ensuite, le débarrasser et l'égoutter. La prochaine étape, assembler le riz, le sucre et la pistache dans le lait chaud. Remuez régulièrement et baissez le feu. Laissez à feu doux environ 30 minutes. S'assurer que le riz est cuit et le débarrasser directement en verrine.
Et est-ce qu'on peut imaginer peut-être cette recette-là avec autre chose que de la pistache ?
Bien sûr. Du coup, nous, on décline le riz au lait régulièrement. Alors, on peut imaginer de faire donc infuser dans le lait chaud des fèves de tonka pour donner un goût un petit peu vanillé, d'écorce, caramel, ce qui relève très bien. On peut le décliner aussi avec du spéculoos à la place de la pistache qui fond dans le lait et qui se mélange harmonieusement avec le riz au lait. Et puis encore, on peut aussi le décliner avec un caramel au beurre salé où là, on le mélange, le caramel beurre salé, une fois le riz au lait pris. Là, c'est vraiment le mélange, il intervient qu'à la fin. Pour le caramel, sinon, voilà, dans le lait, on peut infuser, mais tout ce qui vous fait plaisir, tous les goûts possibles et inimaginables, c'est sans limite.
Et alors, la pâte de pistache, où est-ce qu'on peut en trouver ?
Voilà la colle. Je ne me suis pas plus penchée dessus.
Il faut aller voir au rayon pâtisserie de notre supermarché, j'imagine, ce genre
voilà,
de choses-là.
Je pense.
Sinon, on passe vous voir directement 2 bis cours de Sainte-Croix à Montivilliers et puis on vous en emprunte.
Et voilà, je crois que là, il va rester ça à faire s'il n'y a pas ce qu'il faut dans les supermarchés.
C'est la seule solution que j'ai à vous proposer, en tout cas ce midi. Merci Justine Lucas.
En effet.
En tout cas, si ces recettes de cette semaine vous séduisent et que vous n'avez pas de pâte de pistache, c'est vous, vous passez au JB directement, les goûter à Montivilliers. Dernier rendez-vous cuisine avec Justine Lucas ce midi sur Tendance Ouest. Depuis une semaine, hein, vous le savez, on est dans les cuisines du restaurant Le JB, 2 bis, cours Sainte-Croix à Montivilliers. Justine, par quoi est-ce qu'on termine cette semaine ?
Alors, on va terminer par une verrine citron. Donc, c'est vraiment le dessert phare du restaurant. Donc, encore une fois, ça va être des quantités à diviser, je pense, pour chez vous. Alors, pour la crème de citron, il va vous falloir 1 kg d'œufs de sucre, 12 œufs, 540 g de jus de citron, 1 kg d'œufs de beurre doux et 12 feuilles de gélatine. Donc dans un premier temps, il va falloir mettre les 12 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Ensuite, faire chauffer le jus de citron dans une grosse casserole. Troisième étape, blanchir les œufs et le sucre et y ajouter la moitié du jus de citron chaud. Fouetter, puis remettre le tout dans la casserole. Ensuite, mélanger sans cesse en y ajoutant le beurre en petits morceaux, petit à petit. Ensuite, atteindre l'ébullition, laisser bouillir 3 minutes, toujours en remuant, et ensuite retirer du feu pour pouvoir y incorporer la gélatine. Votre première préparation de crème au citron est prête. Une fois que celle-ci est froide, on va faire une mousse de citron. Donc, on fouette la crème citron froide, 150 g, pour obtenir un mélange lisse. Ensuite, on va fouetter de la crème liquide à 35% pour obtenir une texture ferme. Puis, mélanger les deux préparations au fouet et mettre en poche pâtissière. Ensuite, pour la recette de la meringue, vous aurez besoin de 4 blancs d'œufs, 250 g de sucre. Il suffit de battre les blancs en neige fermement. Ajoutez le sucre par petite quantité tout en continuant à battre. Préchauffez votre four à 120 degrés. Déposez rapidement des petits tas de meringue sur une plaque de four avec du papier cuisson. Cuire une heure à 120 degrés. Ensuite, en sortant du four, bien les laisser refroidir avant de pouvoir les concasser. Car la verrine citron, on la dresse crème citron dans le fond. Ensuite, vous mettez par-dessus donc notre crème fouettée au citron. Et par-dessus, on va venir concasser nos meringues pour apporter le croquant au dessert.
Donc en fait, si je comprends bien, pour faire le deuxième étage qui est cette mousse de citron, on prend une partie de la première préparation, c'est ça, à laquelle on rajoute de la crème.
Exactement.
Visuellement, est-ce que le jus de citron réagit d'une certaine façon quand on chauffe? Est-ce que c'est un jus qui à un moment se met à bouillir? Est-ce qu'il bout plus vite que de l'eau, moins vite? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il faut le travailler?
Il réagit vite à la chaleur et pour ça, il va devenir un petit peu translucide, on va dire. Une fois que le beurre il sera ajouté, là, on retrouvera la couleur du citron.
Toutes les quantités que vous nous avez données, là, on est pour combien de verrines?
22 verrines, à peu près.
D'accord, donc pareil, une nouvelle fois, on laisse nos auditeurs faire les calculs de division et de multiplication en fonction du nombre d'invités qu'il y a autour de la table. Merci encore une fois, Justine Lucas. Toutes ces recettes sont à refaire chez vous. Bien entendu, vous les retrouvez sur internet, tendanceouest.com et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Sinon, vous allez 2 bis cours Sainte-Croix à Montivilliers pour les goûter directement au restaurant Le JB.